Vous écoutez Europe 1, bon réveil, il est 7h.
C'est les bateaux, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, José?
Ils étaient peut-être poursuivis.
Ils ont peut-être vu les gros bateaux gris, là, qui se sont jetés sur eux.
Hein. Et à chacun et chacune sa théorie après les échouages de cocaïne sur les côtes françaises ces dernières semaines. 763 kilos retrouvés. On sera à Saint-Jean-de-Mont dans un instant.
L'hommage de la France à ses soldats en ce 11 novembre. Inauguration aujourd'hui d'un monument dédié aux militaires tombés en opération extérieure.
Dans ce journal aussi, les bons chiffres de l'emploi en France. La situation confuse en Bolivie après la démission du président Morales.
Et puis l'enquête de la rédaction ce matin, Europe 1, en Centrafrique, près de 10 mois après la signature d'un accord de paix.
La mentalité des Centrafricains a changé, on réapprend à vivre ensemble avec ce que nous on a qu'est ici, on est au milieu comme médiateur.
Unité fragile en Centrafrique, reportage à suivre dans un instant.
On parlera aussi de cette mini-éclipse aujourd'hui, Mercure qui passe devant le soleil.
Et puis du foot avec la victoire de l'OM hier soir 2-1 contre Lyon et des supporters survoltés.
Il est 7h01.
C'est dingue, on vient de Rouen pour voir ce match-là. Bah franchement, on n'est pas déçus. On s'aggravera jamais dans la mémoire.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Pierre de Villeneuve, Marion Calais. De la coque sur les côtes françaises, elle arrive par paquets ces dernières semaines sur les plages de l'Atlantique.
Déjà 763 kilos retrouvés en un mois, des découvertes qui intriguent. Reportage à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Ronan Coquelin pour Europe 1.
Les autorités évoquent une marée blanche, mais d'où viennent ces dizaines de paquets de cocaïne retrouvés le long des côtes des Landes à la Loire-Atlantique? Pour l'instant, le mystère plane, le parquet de Rennes s'est saisi de l'enquête. En attendant, les habitants des communes concernées s'interrogent. À Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, où a été retrouvé l'un des premiers ballots de cocaïne, chacun y va de sa petite enquête.
C'est les bateaux, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, José?
Ils étaient peut-être poursuivis.
Ils ont peut-être vu les gros bateaux gris, là, qui se sont jetés sur eux. Hein.
Une cargaison tombée d'un navire de trafiquants, c'est l'hypothèse la plus avancée. Une chose est sûre, c'est que l'un des paquets analysés contenait de la cocaïne à un taux de pureté très élevé, ce qui fait craindre un véritable risque sanitaire. Les autorités invitent donc à la plus grande prudence. Si vous trouvez l'un de ces paquets, il ne faut surtout pas essayer de l'ouvrir et prévenir immédiatement la police ou la gendarmerie. Enfin, le procureur de Rennes rappelle que le transport de ce type de produit est passible de 10 ans d'emprisonnement. À Saint-Jean-de-Mont, Ronan Coquelin, Europe 1.
Le procureur de Rennes, justement, qui centralise toutes les enquêtes, hein, évoque, lui, un impossible délestage en mer à cause d'une tempête ou d'une avarie. Conséquence de ces échouages de drogue, 5 communes, dont Lacanau ou Lèche-Cap-Ferré, ont décidé de fermer leurs plages au public.
101 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, l'hommage de la France à ses soldats et notamment à ses militaires tombés à l'autre bout du monde.
Oui, Emmanuel Macron va inaugurer aujourd'hui dans un parc du 15e arrondissement de Paris un monument qui leur est dédié. Et c'est Adrien Becht qui nous le présente pour Europe 1.
Six soldats en bronze, tête recouverte d'un képi, d'un béret ou d'une casquette, deux de chaque armée qui portent un cercueil invisible, symbole de l'absence de celui qui est mort pour la France. Les visages sont ceux de militaires qui ont accepté de servir de modèle. À quelques pas de la sculpture, un mur des noms, 549 à ce jour, officiers, sous-officiers, militaires du rang, tués en Irak, au Tchad, en ex-Yougoslavie. Le dernier inscrit est celui de Ronan Pointeau, disparu au Mali il y a 10 jours. Si François Hollande avait posé la première pierre de ce monument aux morts en 2017. Emmanuel Macron a voulu relancer le projet. La France n'oublie aucun de ses enfants, avait alors déclaré le chef de l'État. Avec ce lieu érigé dans un parc public, il s'agit aussi de faire entrer les missions à l'étranger dans la mémoire, dit-on à l'Élysée, et faire comprendre qu'aujourd'hui encore, des militaires meurent pour notre pays.
Adrien Beck, Jean-François Buil a perdu son fils en Afghanistan, c'était il y a 11 ans. Il sera au rendez-vous cet après-midi au mémorial et il sera sur Europe 1 à 7h40. Ce 11 novembre, c'est l'occasion aussi de continuer à faire vivre la mémoire de la Première Guerre mondiale. Après le faste des commémorations du centenaire l'an dernier, la curiosité reste vive, comme l'a constaté Laure d'Autriche pour Europe 1 au musée de la Grande Guerre à Meaux, en région parisienne.
Ce qui est rassurant, c'est qu'en cette année 2019, le public est toujours présent. On a toujours environ 100 000 visiteurs par an.
Après ces 4 années d'intenses commémorations, la fréquentation n'a donc pas baissé ces derniers mois, dit Elena Le Gall, la directrice du musée de Meaux. Pour maintenir l'intérêt, le musée met l'accent sur le vécu des soldats, les témoignages, plus que sur les cartons d'archives. Le public peut toucher les objets, mitrailleuses, grenades, ou encore enfiler un uniforme de poilu, s'immerger pour mieux comprendre. Et lorsqu'il transmet cette histoire aux plus jeunes, Jean-Pierre Vernet, qui est à l'origine de ce musée, leur parle du quotidien.
La gamelle, la cuillère, la fourchette, un mot, le gratte-cul, Tout de suite, ils s'étonnent pour leur expliquer qu'à l'époque, il n'y a pas de papier de toilette, tout ça. Et qu'en même temps, sa petite curette de bois que les soldats ont dans leur poche, bah, ça va leur sauver la vie, ça leur évite d'être infectés. C'est de tous ces petits détails qui font que, peu à peu, l'enfant s'immerge dans un monde mais tellement éloigné du sien.
Les photos parlent aussi, comme cette seule image de la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Un armistice signé dans la forêt de Compiègne, pudiquement, en silence, comme un immense deuil après 4 ans de guerre.
Un reportage européen de l'Or d'Autriche, le musée de la Grande Guerre de Meaux, qui sera gratuit toute la journée. Elles ont dénoncé la stigmatisation des musulmans en France. 13 500 personnes ont manifesté hier à Paris. Et au-delà de la proximité des organisateurs avec les frères musulmans, polémique sur cette photo de manifestants arborant une étoile jaune et un croissant jaune, comparaison indécente pour la députée En Marche, Aurore Berger.
Allez, du mieux à court et à moyen terme, ça s'améliore en France sur le marché de l'emploi.
L'édito éco avec la banque Kolb, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Kolb, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Bonjour Daniel Fortin.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Rédacteur en chef des Échos, il y a ce chiffre vendredi qu'on a vu, plus 0,3% de création d'emplois au troisième trimestre. Mais vous, vous mettez l'accent ce matin sur un autre chiffre, passé presque inaperçu en 3 ans. La France a créé, tenez-vous bien, 800 000 emplois.
Oui, et c'est en effet un quasi-miracle, on en parle peu. Pourtant, c'est un score très élevé. Il faut remonter à la période 1997-2000 pour retrouver un niveau supérieur. On avait alors créé 1,7 million d'emplois, mais la croissance était 2 fois plus élevée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on crée désormais davantage de postes, malgré une activité plus faible. Parmi les raisons qui expliquent ce phénomène, eh bien, il y a le vaste mouvement de baisse des charges des entreprises qui a été engagé depuis les années 90. Ça a coûté cher à l'État, bien sûr, mais ça a fini par payer. Certes, le taux de chômage reste encore élevé aujourd'hui, avec 8,5% de la population active, mais il est en train de baisser.
Mais ces emplois créés, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont de bons emplois?
Alors c'est en effet tout le problème. Beaucoup de ces emplois sont en effet des postes peu qualifiés et donc peu payés. Donc de ce point de vue, il n'y a en effet pas matière à se réjouir trop fort. Mais dans un pays qui compte encore 3,4 millions de chômeurs, créer des emplois sur un tel rythme, c'est toujours bon à prendre. Et puis ces derniers temps, on constate une timide évolution vers plus de CDI et moins de CDD. Là aussi, c'est un début d'inversion de tendance, espérons-le. Ça montre quand même qu'il y a du mieux sur ce front toujours très sensible de l'économie française.
C'était l'éclairage éco en direct tous les matins dans ce journal. Daniel Fortin, merci.
Il est 7h07 sur Europe 1, la suite du journal. Pierre Devineau, Marion Calais.
La confusion en Bolivie après la démission du président Evo Morales, dont la récente réélection était contestée ces dernières semaines. Explosion de joie à La Paz, la capitale, et dans le même temps, colère sur les terres de l'ex-président, comme le raconte cette Française installée en Bolivie. Tendez l'oreille, la liaison est un peu difficile.
Là-haut, c'est une autre réalité qu'ils sont en train de vivre. Eux, ils sont en train de vivre de la violence et de l'énervement. Quand ici, plus bas dans le centre, on est en train de vivre des scènes de joie et de célébration. Les gens, ils font la fête vraiment parce que c'est la fin de 14 années de pouvoir. Et surtout, là, depuis ces 3 dernières semaines, c'était une tension hyper forte en permanence. C'est toute cette fraude et cette corruption qui est tombée.
Et après cette démission, Evo Morales assure qu'un mandat d'arrêt a été mis contre lui. Plusieurs hauts responsables boliviens ont été arrêtés. D'autres ont démissionné. Présentement donc, le pouvoir est vacant à la tête de la Bolivie.
En Espagne, scène politique toujours divisée. Le Parti Socialiste arrivait en tête, mais loin de la majorité absolue après les législatives. Le parti d'extrême droite, en revanche, Vox, créé il y a 5 ans, devient la 3e force politique du pays.
En Irak, 3 nouvelles victimes. La répression s'accentue. Les États-Unis demandent ce matin l'arrêt des violences et des élections.
Près de 10 mois après la signature d'un accord de paix, Europe 1 est retourné en Centrafrique. On vous avait beaucoup parlé de cette guerre civile qui a ensanglanté le pays pendant 6 ans, faisant des milliers de morts et plus d'un million de déplacés.
C'est le choix de la rédaction ce matin, notre enquête, alors qu'aujourd'hui en Centrafrique, l'équilibre reste précaire et pour rétablir la sécurité. L'Union européenne finance par exemple des programmes de formation des forces de l'ordre, mais on est encore loin du compte. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Centrafrique, Justin Morin.
Hop, messieurs, à genoux, écartez la main, il est armé. Un homme est au sol, trois autres s'approchent de lui. Rapidement, il le désarme, lui passe les menottes. La seule différence avec la réalité, c'est que la kalachnikov du policier est en bois. Joseph est gendarme mobile à Bangui, la plus jeune de sa formation, et elle constate au quotidien les mauvais restes de la guerre civile.
Avec la population, c'est un peu difficile. Par exemple, s'il y a des manifestations, lorsqu'on vient, on nous jette des pierres. Parfois, il y a des coups de feu. Mais la mentalité des centrafricains a changé. On réapprend à vivre ensemble avec ce que nous, on acquiert ici. On est au milieu comme médiateur.
Mis à part le quartier musulman du PK5, où les forces de sécurité intérieure évitent de circuler la nuit, les patrouilles se font sans trop d'encombre, mais trop peu nombreuses, sous-équipées. Cyril, agent de douane, reconnaît de vraies lacunes.
Il y a beaucoup de déficits. Si on n'était pas venu ici, on ne saurait pas comment aussi faire.
À ses côtés, Habib, l'un de ses formateurs, répète le but de tout cela.
Rétablir l'autorité de l'État, puisque l'autorité de l'État passe nécessairement par ses agents.
Mais aussi par le contrôle du territoire. Or, 80% du pays est toujours occupé par des groupes rebelles armés. Le gouvernement tente donc en priorité de conserver la sécurité sur l'unique voie de ravitaillement venue du Cameroun voisin. 600 km de chemin de terre sur lequel j'ai pu circuler, très prisé pendant la guerre civile par les coupeurs de route.
Voilà, tu vois, ça c'est une barrière complètement illégale, tenue par des policiers et par des gendarmes.
Aux barrières, les forces de l'ordre ont remplacé les rebelles, mais le racket, les tracasseries, dit-on ici, comme me l'apprend Livio Granzotto, se poursuivent. Cet Italien est chef d'équipe pour Civipol, entreprise française dotée de fonds européens pour la sécurisation de ce corridor.
Jamais personne n'a pu comprendre qu'est-ce qu'ils foutent ici et pour quel motif ils sont là. C'est pas leur mission de contrôler les voyageurs.
On compte encore une vingtaine de barrières illégales contre 9 officielles. Civipol les réaménage pour bien les identifier. Un bon début pour Pavel, chauffeur poids lourd camerounais.
Maintenant, tu peux facilement faire la route sans avoir peur que bon, le seul problème, c'est trop de trous sur la route. Là, on a les risques de renversement. Il faut vraiment être vigilant pour pouvoir y arriver.
La sécurisation de ce corridor doit faire figure d'exemple pour le reste du territoire. Mais il faudra certainement d'autres arguments pour faire céder les milices rebelles toujours en place. À Bangui, Justin Morin, Europe 1.
Voilà, et une situation qui reste donc précaire en Centrafrique, c'était l'enquête de la rédaction d'Europe 1.
Il est 7h11 sur Europe 1, la suite du journal.
Ça n'arrive qu'une douzaine de fois par siècle et c'est aujourd'hui. Mercure, la plus petite planète du système solaire, va passer aujourd'hui devant le Soleil. Ce sera à partir de 13h35.
Et qui d'autre qu'Alain Sirou pour expliquer ce phénomène. Bonjour Alain.
Bonjour Pierre, bonjour Marion.
Bonjour.
Vous êtes le consultant Espace d'Europe 1. D'abord, pour être très concret, on va voir quoi ? Et me dites pas rien, hein.
Alors non, on ne va pas rien voir. Simplement, il faudra disposer d'une lunette ou d'un télescope pour voir l'événement qui est rare, original, mais qui n'est pas spectaculaire. Parce que vous savez, vous l'avez dit, hein, Mercure, c'est une toute petite planète dont le diamètre apparent est 195 fois plus petit que le Soleil.
Donc ça, va
donc,
être
ça veut
une
dire qu'en fait, c'est un confetti qu'on va voir.
Oui, d'accord. Et pour observer ce phénomène, il faudra être équipé, vous avez dit, un télescope, c'est bien ça ?
Lunettes, télescope, filtre solaire, qui en fait devrait permettre de voir ce petit grain de beauté qui va passer devant le Soleil, et qui en fait n'est pas une éclipse. Vous savez, l'éclipse, c'est quand la Lune passe devant le Soleil et l'éteint entièrement. Mmh. Là, c'est ce qu'on appelle un transit planétaire, c'est-à-dire un passage d'une planète devant le Soleil et qui fait baisser très légèrement la lumière. Les astronomes dans le passé ont utilisé ces événements qui concernent majoritairement Vénus et Mercure pour mesurer les distances de la Terre au Soleil, pour préciser la taille du système solaire, pour vérifier même les théories sur la mécanique céleste. Donc on aura sous les yeux toute l'après-midi, puisque l'événement commence à 13h35. Ça va se passer sur pratiquement 5 heures, donc encore une fois avec lunettes, télescopes et filtres uniquement, la démonstration de ce que nous vivons autour d'un Soleil qui lui est très gros et nous sommes tout petits, tout petits, tout petits et c'est vraiment comme une mouche, comme une petite tache, un grain de beauté qui est offert par le ciel.
Le décryptage d'Alain Sirou, consultant Espace d'Europe 1, et si vous n'avez pas de lunettes ou de télescope, hein, l'Observatoire de Paris retransmettra l'événement sur son site internet aujourd'hui.
Plus terre à terre, enfin, le foot.
Ouais, oui, avec la victoire de Marseille hier soir au Vélodrome contre Lyon, score final 2-1 dans une ambiance rare pour Europe 1, Stéphane Frangy.
Un feu d'artifice tiré en pleine rue, des concerts de klaxons, bref, une exubérance digne d'une ambiance de titre.
Ouais, impeccable, putain, on les a crevés, c'est impeccable. Franchement, ça va, ils se sont bien donnés. Ça m'a trop plaisir. On va dire, avec l'ambiance qu'il y avait, on ne devait pas perdre. C'était pas possible de perdre.
Et il faut dire qu'au-delà du résultat, ces supporters viennent de vivre une soirée d'anniversaire pour les 120 ans du club, avec un tifo géant, des fumigènes jusqu'à l'excès, une ambiance survoltée pour un moment unique.
C'était
un truc de dingue. On vient de Rouen pour voir ce match-là. Bah franchement, on n'est pas déçus. C'était énorme, le tifo est magnifique. Avec Notre-Dame de la Gare, les 120 ans, franchement magnifique. On n'est pas prêt d'avoir un tifo de cette qualité. On s'aggrave à jamais dans la mémoire.
Marseille répond enfin présent dans les grands rendez-vous. Les supporters en perdent leur voix.
Ah, on a crié tout le match. On ne s'est pas arrêté. On n'a fait que crier. Il y avait de l'envie sur le terrain. On devait mettre l'envie aussi dans les tribunes. Allez l'OM.
Et l'OM qui se glisse sur le podium à la deuxième place. Mais ses supporters ne perdent pas de vue que c'est une position précaire dans un championnat aussi resserré. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et après le match, le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, a déploré l'image déplorable du foot après cette rencontre, avec notamment ce caillassage du bus de son équipe. Et puis la défaite marquée selon lui par de grosses erreurs d'arbitrage.
Merci, c'était le journal de Marion Calais.